Le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, le Liban sous le choc et la communauté internationale mobilisée. L'explosion qui a dévasté Beyrouth a fait au moins 113 morts. Les autres titres, Laurence.
Des spécialistes français du sauvetage et du déblaiement sont arrivés sur place alors que pointe la menace de pénurie alimentaire. Le port de Beyrouth qui accueillait les matières premières est ravagé. 240 milliards d'euros d'aides de crédit à distribuer aux pays de la zone euro durement touchés par le Covid-19. Pourtant, les prêts du mécanisme européen de stabilité ne font pas recette. Fabien Cazot nous dira pourquoi. Ils se considèrent comme les nouveaux réfugiés climatiques. Des Français qui avaient choisi le Sud pour passer leur retraite remontent au Nord chercher la fraîcheur.
Les invités de la matinale, d'abord un documentariste français qui tente pour la première fois l'expérience américaine Netflix. Paul Moreira sera avec nous tout à l'heure à 7h50. Et à 8h20, dans le grand entretien, nous parlerons du Liban avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne et l'écrivain Sharif Majdalani qui sera en direct de Beyrouth. Vos témoignages, vos réactions, vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert ou sur l'appli franceinter.fr.
France Inter.
Pire que la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, pire que l'assassinat de Rafik Hariri en 2005, disent les Libanais sous le choc après la double explosion qui a ravagé la moitié de la capitale. 300 000 personnes sont désormais sans domicile, alors que le bilan fait état d'au moins 113 morts, dont un architecte français, 4 000 blessés, dont une vingtaine de Français et des dizaines de disparus. Beyrouth ressemble ce matin à un vaste chantier, sol recouvert de verre brisé par le souffle de l'explosion, arbres déracinés, meubles éparpillés, blocs de béton arrachés. En colère et exaspérés par l'incurie des autorités qu'ils accusent d'être responsables du drame, les habitants s'activent pour l'instant à balayer les sols jonchés de débris. C'est le reportage de Laure Stéphan à Beyrouth.
Dans les rues de Marmir Island, l'un des quartiers les plus sinistrés de Beyrouth par la double explosion de mardi, l'heure est à la mobilisation citoyenne. Des jeunes volontaires nettoient les rues, aident dans les appartements, distribuent de l'eau. Marc Cassis est venu avec des amis.
On a plein d'amis ici qu'on a aimé venir aider. La situation est très difficile pour tout le monde. Alors, si on peut venir faire des choses simples, le minimum aidera. Quelque chose de cette magnitude, c'est quelque chose de nouveau. Alors, on est choqué. Je crois que ça va rester comme ça pour des mois et peut-être des années.
Un sentiment de traumatisme, une volonté d'obtenir des explications, de la colère aussi envers la classe politique, exprimée par Maria Darer, étudiante volontaire avec l'Ordre de Malte Liban.
Honnêtement, je ne fais plus confiance. On en a marre, littéralement. On n'a plus confiance au gouvernement, on n'a plus confiance aux leaders politiques, parce que c'est vraiment, c'est catastrophique. C'est imaginable. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe.
Maria entend rejoindre la contestation si les manifestations reprennent. D'autres jeunes disent eux vouloir pour l'instant se concentrer sur l'aide à apporter aux victimes. Beyrouth, Laure Stéphan, France Inter.
Emmanuel Macron est attendu à 11h heure française à Beyrouth. Premier chef d'État à se rendre sur place. Emmanuel Macron s'entretiendra avec les principaux responsables libanais avant de s'exprimer en fin de journée. L'appel à l'aide lancé par le Premier ministre libanais Hassan Diab a été entendu. La communauté internationale se mobilise. Aide humanitaire, équipe médicale, hôpitaux de campagne, pompiers, vivres, matériaux de construction. La France a été parmi les premiers pays à réagir. Elle a envoyé dès hier 3 avions remplis de 20 tonnes de matériel et de secouristes pour faire face à l'urgence. Et l'urgence, à ce jour, c'est rechercher des survivants, les soigner sur place avant de les envoyer dans les hôpitaux. Explication du colonel Michael Bernier, le porte-parole de la sécurité civile. Il est interrogé par Béatrice Duguay.
C'est du matériel très spécifique, dit du matériel de sauvetage déblaiement. Donc vous avez des appareils pour écouter très finement en posant des micros sur du ciment pour voir si vous n'entendez pas une personne taper quelque part ou respirer. Vous avez des matériels pour lever des plaques de béton, pour les couper. Vous avez vraiment des matériels très spécifiques de sauvetage déblaiement, le même matériel que pour les tremblements de terre. Et puis vous avez aussi des matériels de détection pour voir si on n'a pas une fuite de produits chimiques à un endroit dans une entreprise, pour voir si on n'a pas des produits de combustion qui pourraient être toxiques pour les gens. Donc voilà, on est sur du matériel de secours adapté à la mission, robuste, parce qu'il faut dans ce genre de conditions des matériels robustes, mais qui sont aussi des matériels extrêmement techniques et à la pointe de la technologie pour pouvoir le plus rapidement possible venir au secours des survivants et des gens qui ont besoin d'être évacués rapidement.
Le colonel Michael Bernier, le porte-parole de la sécurité civile.
Cette tragédie frappe un pays plongé depuis des mois dans une très grave crise économique.
Dépréciation inédite de sa monnaie, hyperinflation, licenciements massifs et restrictions bancaires drastiques. 50% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Ces effets ont été encore aggravés par la pandémie de coronavirus qui a contraint ces derniers mois les autorités à confiner pendant plus de 3 mois la population. Désormais, l'Agence de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, redoute une crise alimentaire. Le Liban importe de nombreuses matières premières qui transitent par le port où des silos entiers de céréales ont été éventrés par l'explosion. Élise Delève.
Le Liban ne produit pas assez pour nourrir sa population. Il dépend de l'importation. 80% de la nourriture vient d'ailleurs. Jusqu'à présent, la plupart des produits alimentaires transitaient par le port de Beyrouth. Éric Verdeil, chercheur à Sciences Po et auteur d'Atlas du Liban.
La situation financière du Liban faisait que déjà la situation alimentaire, mais aussi d'ailleurs pour d'autres biens essentiels comme pour le pétrole, était déjà à flux tendu. Et je pense que là, la situation va s'aggraver. On peut penser que le port de Tripoli, qui donc est loin de tourner au maximum de ses capacités aujourd'hui, pourrait accueillir une partie du trafic, c'est certain. Mais la capacité de transbordement, c'est une chose, et la question du stockage, elle, reste, à mon avis, posée.
Car le port de Beyrouth stockait énormément de produits. Les silos de blé complètement détruits pouvaient par exemple contenir 120 000 tonnes. Même si la communauté internationale envoie de l'aide alimentaire, les Libanais vont sans doute devoir s'adapter et peut-être manger moins. Une crise par-dessus la crise. À cause de l'effondrement de l'économie, les prix des produits alimentaires avaient déjà considérablement augmenté et doublé depuis janvier.
Et quant à l'enquête, elle devra déterminer pourquoi les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé, pourquoi cette matière dangereuse saisie il y a 6 ans est restée sans surveillance dans le port. On y revient dans le journal de 7h30.
À présent, un paradoxe, Laurence, à l'heure où les conséquences économiques de la crise sanitaire sont plus que pessimistes, la cagnotte européenne de 240 milliards d'euros ne trouve pas preneur.
Il s'agit de fonds mis à disposition des États pour couvrir les dépenses de santé liées au Covid-19 dans le cadre du MES, le mécanisme de stabilité européen, des prêts que les États membres peuvent solliciter à des conditions pourtant très avantageuses. Fabien Cazot.
Est-ce la peur de se voir exiger des contreparties drastiques au versement de fonds européens ou une volonté de ne rien devoir à l'Europe dans certains pays comme l'Italie, dirigée par des gouvernements eurosceptiques? Toujours est-il que les pays européens rechignent à solliciter les prêts à taux bas mis sur la table par le mécanisme européen de stabilité financière, et ce, malgré le creusement des déficits publics partout à cause de la crise du coronavirus. Pourtant, Bruxelles redouble de pédagogie, notamment en direction des pays les plus fragiles d'Europe du Sud. Non, il n'y aura pas d'exigence de réforme douloureuse en contrepartie. Et oui, les taux sont plus avantageux que pour les emprunts classiques contractés sur les marchés financiers, les taux pouvant même s'avérer négatifs. Pour l'heure, les États européens se montrent plutôt impatients de toucher les subventions prévues, elles, dans le plan de relance annoncé fin juillet, des subventions directes plutôt que des prêts. Problème, ces sommes ne seront disponibles qu'à partir de 2021.
Fabien Cazot, alors si les pays boudent la cagnotte européenne, des sociétés de sécurité privée voient dans le coronavirus un nouveau débouché commercial. Les établissements qui reçoivent du public sont de plus en plus contraints de faire appel à des vigiles pour faire respecter les gestes barrières et éviter les attroupements. Reportage de Marion Dambiel-Aribagé.
Comme chaque année, Olivia a voulu organiser cet été des concerts sur la terrasse de son restaurant de Molietz-Plage. Principal problème, éviter les attroupements dans la rue.
C'est vrai que chaque année où nous organisons ces concerts, on s'est rendu compte qu'il y avait des regroupements de personnes devant l'établissement. C'est vrai que sur les fins de soirée, on s'est retrouvé avec une petite centaine de personnes. Et effectivement, la préfecture nous a demandé de faire appel à une agence de sécurité pour surveiller ça. Il a été difficile de trouver quelqu'un parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes.
Et des demandes comme celle-là, il y en a effectivement beaucoup en ce moment. Pour y faire face, la société Action Sécurité, basée à Saint-Jour-de-Marenne, a même créé une équipe spéciale Covid et recruté pour l'occasion 10 personnes qui sont exclusivement dédiées à ces missions. Christian Lafont est le PDG d'Action Sécurité.
Ce n'est pas quand même l'essentiel de notre activité, mais c'est un complément d'activité qu'il ne faut pas négliger dans cette période-là. On n'a aucune manifestation, aucune feria, donc dans le secteur de la sécurité privée, c'est un choc économique que l'on subit, donc il ne faut pas perdre d'esprit ce complément qu'on peut obtenir. Il faut s'adapter au marché et c'est ce que l'on essaie de faire.
Mais faire appel à un vigile, cela représente un coût supplémentaire pour les propriétaires d'établissements. 25 euros par heure, par exemple, pour la société engagée par Olivia, soit 100 euros par soirée-concert.
Alors que l'Europe multiplie les mesures face à la menace d'une deuxième vague de Covid-19, aux États-Unis, Donald Trump est dans le viseur de Facebook et Twitter en cause une vidéo dans laquelle il assure que les enfants ne sont quasiment pas susceptibles d'attraper cette maladie. La vidéo a été retirée de Facebook, même motif, même punition. Twitter interdit momentanément à l'équipe de campagne, cette fois-ci du président américain, d'utiliser son réseau pour cause, je cite, de désinformation. C'est l'une des plus belles collections d'art contemporain, la collection Lambert à Avignon. Elle fête ses 20 ans. Yvon Lambert, galeriste de renom, dévoile sa collection intime, Isabelle Pasquier.
Plus de 2000 œuvres des années 70 à aujourd'hui. La collection d'Yvon Lambert, c'est 50 ans d'art contemporain à travers le regard avant-gardiste d'un galeriste qui a toujours fonctionné au coup de cœur avec les artistes entre Paris et New York. Au cœur de l'exposition, sur l'intimité dans la collection, Nan Goldin, qui immortalise ses années sida, traversées par la liberté et la peur. Tsai Tombly, poète des signes qui dynamite la peinture. Yvon Lambert a choisi des artistes qui bousculent l'art et la société. Mais aujourd'hui, il regarde avec sévérité le milieu de l'art, gangréné par la spéculation.
Aujourd'hui, l'argent règne vraiment. L'art et le monde de l'art, il est encombré de gens qui ne savent rien. Il y a des œuvres d'art, pour pas dire nulles, qui se vendent à des prix au-delà de toute raison. Pour des conquérants du marché financier, avoir un Jeff Koons chez lui qui l'a payé X millions de dollars, ça rassure. Et ils sont soutenus par des marchands américains, européens qui gagnent beaucoup d'argent.
Dans la collection des portraits de stars de Douglas Gordon, nos yeux se reflètent dans un miroir qui apparaît sous les yeux brûlés de Jane Birkin ou Arletty. Vertige introspectif de l'expérience de l'art.
Isabelle Pasquier, une nouvelle vague de forte chaleur arrive en France dès aujourd'hui. L'occasion de vous raconter l'histoire de Marie-Lou et de Philippe. Mmh. Ce couple de retraités vivait dans le sud et a choisi la Bretagne pour se mettre au frais. Jeanne Moison.
Oui, Marie-Lou et Philippe sont originaires du nord de la France. Au moment de leur retraite, ils décident de partir vivre dans le sud, à Villeneuve-sur-Lot, au nord d'Agen. 20 ans de bonheur, mais trop de chaleur. Ils viennent de déménager à L'Envolon, près de Saint-Brieuc. Nous sommes des réfugiés climatiques, disent-ils.
On s'était dit, comme tout le monde, on va aller dans le sud. Au début, on s'y est bien plu. Et puis au fil du temps, c'est vrai qu'on a vu le climat qui se dégradait. Parce que moi, j'appelle ça se dégrader. Hein.
Trop chaud ?
Ah, tout à fait, c'est vraiment la chaleur. Le matin, déjà, on ne pouvait plus rester dehors. C'était la clim. On fermait les volets, on restait enfermés. Pour moi, c'est pas vivable. Je trouve ça très inquiétant.
Philippe et Marie-Lou ont donc choisi la Bretagne.
On avait plusieurs choix parce qu'on a nos enfants qui sont un peu répartis dans toute la France, dont une à Arcachon. Donc ça, c'était déjà très chaud. Puis nous restait la Bourgogne qui devient très chaude aussi. Et comme on avait un fils qui lui avait déjà quitté Bordeaux pour venir s'installer en Bretagne, on s'est dit, on va aller en Bretagne parce que moi, j'aime bien vivre dehors. Et là-bas, c'était pas possible.
Et là, vous vous sentez mieux ?
Ah, je suis très bien. De toute façon, je n'y retournerai jamais. Au besoin, peut-être je remonterai un peu sur l'Écosse, l'Irlande. Si jamais le climat se détériore encore plus vite, mais il est hors de question que je redescende dans le sud.
Et vous, Marie-Lou, vous vous sentez comment alors ici en Bretagne ?
Une qualité de vie plus agréable. J'ai une amie qui est restée là-bas. Quand elle me dit qu'il fait 35, 36, c'est affreux.
Il brûle le soleil parfois,
et nous,
c'est vrai.
Nous sommes des réfugiés climatiques heureuses, hein, Karine, dans la climatisation des studios de France Inter.
Il fait trop froid même, non ?
Non, ça va.
À tout à l'heure, 9h, Laurence, merci beaucoup.